que mon analyse de la bande-annonce du film à venir, Tombée du ciel, vous a semble-t-il plu, j'ai décidé de remettre le couvert avec cette fois-ci celle du film La Nirvana, dont la sortie en salle est prévue pour bientôt.
J'attends et je suis très impatiente.
Dans cette vidéo, je ferai en toute logique beaucoup de parallèles avec les mécanismes de Tombée du ciel.
Tout se passe bien pour lui, alhamdoulilah.
Commençons par une analyse sémiologique de l'affiche du film. Tout comme dans Tombée du ciel, nous avons au centre de l'image le héros du film, un jeune arabe de banlieue.
Voilà, voilà.
Sa posture est très comparable à celle du héros du précédent film cité. Il a une expression naïve, ébahie et désorientée. L'air de se dire, bordel, qu'est-ce que je fous là ?
Mais qu'est-ce que je fais là ?
Le personnage n'est pas présenté comme une menace, mais comme une victime du destin ou un candide. Placer ce visage plus ou moins inoffensif au centre permet de créer un sentiment immédiat d'empathie. Le message visuel subliminal est « Regardez, ce n'est pas le voyou que vous imaginez, c'est un bon gars un peu dépassé par les événements. »
J'y crois à mort.
Le placer au centre fixe le point focal. Tout le reste du décor ou des personnages secondaires ne sert que de réactif autour de lui. Ce type de regard perdu invite le public à adopter son point de vue. Le spectateur est amené à découvrir ce nouveau monde à travers ses yeux d'innocent, ce qui valide d'entrée de jeu sa légitimité face au décor qui l'entoure. Attardons-nous sur les deux personnages en haut de l'affiche. On devine qui seront les deux personnages principaux après le héros. Deux protagonistes qui s'apparentent à des paysans. Chemise à carreaux, bretelles, béret. On n'est pas dans la représentation de l'agriculture moderne, mais dans une imagerie d'épinal, limite folklorique. Pourquoi ce visuel ? Eh bien, pour rassurer. Ces personnages ne doivent pas paraître effrayants ou hostiles. Leur allure sciemment ringardisée les rend inoffensifs et immédiatement identifiables comme la France d'autrefois, la France figée. Il y a d'un côté le vieux campé par la serpillière gauchiste Eric Cantona, ce qui nous donne déjà un indice sur le ton du film,
les sales gauchistes.
Et de l'autre un jeune que l'on devine être son fils. La posture et la moue du vieux indiquent la méfiance, le rejet instinctif ou la rigueur de l'ancienne génération. Son regard fermé le désigne comme le personnage à convaincre ou à convertir. Le jeune, quant à lui, est hilar sur l'affiche. Il renvoie l'image d'une personne ouverte, influençable et naïve. Dans cette affiche, je sens à des kilomètres le scénario de type. Le jeune de banlieue va devoir apprivoiser le sauvageon de la campagne, mais c'est le jeune qui va faire sauter les verrous mentaux du vieux. L'affiche promet au spectateur le cheminement suivant.
Vous voyez ce vieux de la vieille, bourru et méfiant. Il va finir par ouvrir son cœur et comprendre que ce jeune n'est pas un mauvais bougre.
L'hostilité initiale du rural sert de faire valoir pour montrer la victoire morale et culturelle du héros de banlieue. Notons la présence de Gad Elmaleh qui vient grossir sa collection de films de merde purement alimentaire. Bref, enchaînons avec le réalisateur, Hakim Bougueraba. C'est le frère de l'humoriste Redouane Bougueraba, un pur produit du Jamel Comedy Club dont l'humour consiste, comme tant d'autres de sa génération, à se foutre de la gueule de son public, l'humour de la Nouvelle France dans toute sa splendeur.
Très chaud, monsieur, au premier rang. Je vais finir à 23h, je vais pas reculer, je m'en bats les couilles. Je sais pas si tu rigoles ou si tu es en train de te faire calme.
C'est affligeant.
Il y a un autre frère, Hichem Bougueraba, qui n'est autre que l'acteur principal de la Nirvana. Bien évidemment, les gauchistes si prompts à pointer du doigt l'entre-soi des Blancs n'auront rien à redire à cet entre-soi maghrébin, ça va de soi.
C'est vraiment des hypocrites.
Alors, il a fait quoi ce Hakim Bougueraba ? Les Sekpa au ski, sous écrou ? Ouais, ok.
Franchement, ça ne fait pas du tout rêver.
Dans tous ces films, il y a la même mécanique. Il transforme des délinquants en figures clownesques pour rendre l'illégalité inoffensive et consommable pour le grand public. Je sais pas si ce genre de réalisateur cherchait à désamorcer les stéréotypes en nous montrant qu'au fond, ces jeunes sont attachants, mais quoi qu'il en soit, en répétant ce schéma à chaque film, ils enferment leur propre communauté dans une unique grille de lecture, celle du délinquant de cité incapable de s'insérer autrement que par le rôle du bouffon sympathique. En toute honnêteté, je sais pas si c'est du pur cynisme ou juste de la bêtise.
Les deux, mon capitaine.
Venons-en au synopsis.
Jean, un agriculteur en faillite, croule sous les dettes, les huissiers et la solitude depuis que Sylvie l'a largué. Un soir, lorsqu'il s'apprête à commettre l'irréparable dans sa grange, un miracle lui tombe littéralement dessus. Foued, un jeune de cité en cavale, encastre son 4x4 rempli de drogue dans le mur de sa grange, lui sauvant la vie par accident. Mais quand Jean, paniqué par la police qui rôde, brûle la voiture et sans le savoir la cargaison avec, les deux hommes se retrouvent piégés. L'un risque de perdre sa ferme et ses bêtes, l'autre sa tête. Pour rembourser la dette de Foued et sauver la ferme de Jean, il décide de faire ce qu'aucun des deux n'aurait imaginé, cultiver du cannabis bio, discrètement au milieu des chèvres et des champs.
Il y a tant à dire sur le synopsis, mais commençons par le titre pernicieux. En appelant ce film « La Nirvana », le réalisateur ne fait pas qu'un jeu de mots. Il prend un concept de paix spirituelle pour habiller un trafic de drogue, tout en lui appliquant la grammaire de la cité. Le message est clair. La drogue n'est plus un délit, c'est une aventure humaine et un business artisanal qui réconcilie les cœurs. C'est la banalisation absolue du produit sous couvert de comédie champêtre. Maintenant, le synopsis. Employer le terme « miracle » pour qualifier l'accident violent d'un go-fast rempli de stupéfiants, c'est l'inversion idéale. Un crime de la route, conduite dangereuse, fuite, trafic, est transformé en un acte providentiel. Le sous-texte est limpide. La France rurale slash traditionnelle est tellement au bout du rouleau, suicide, faillite, solitude, qu'il faut littéralement qu'une voiture de cité lui vole dedans pour la ramener à la vie. Le jeune de banlieue devient la force de résurrection de la France profonde. Rappelez-vous mon parallèle entre tomber du ciel et intouchable. On est dans la même mécanique. Le jeune de banlieue qui vient insuffler de la vie et du dynamisme à une France moribonde. Notez que le lexique est soigneusement nettoyé. Ils ne disent pas un criminel membre d'un réseau de narcotrafic, mais un jeune de cité en cavale. Le terme jeune renvoie à l'immaturité, à la légèreté, presque à une erreur de jeunesse.
Il fait des petites bêtises comme tout le monde.
En cavale donne un côté aventure.
Mais d'aventure en aventure.
Ça permet de désamorcer la gravité des faits, le transport de drogue en bande organisée pour garder le personnage dans la case du héros sympathique.
En bande organisée, personne peut nous canaliser.
Ensuite, le mec voit une voiture défoncer son mur et son premier réflexe d'homme paniqué par la police serait d'y mettre le feu.
What?
La ficelle est tellement grossière. Les scénaristes ayant besoin d'un prétexte pour créer une dette financière immense, la marchandise détruite, empêcher Fouette de repartir, et enfin mettre les deux personnages dans le même bateau, rendant l'agriculteur complice de dissimulation d'un fugitif et de destruction de preuves.
C'est complètement con, c'est complètement con.
Pour faire tenir ce genre de comédie feel-good, le scénario est obligé de faire faire aux personnages ruraux des actes d'une stupidité sans nom. L'agriculteur est dépeint comme tellement dépassé ou bené qu'il détruit lui-même sa seule chance de s'en sortir proprement, pour justifier le fait d'entrer dans l'illégalité avec le jeune de banlieue.
Si on demande la légalisation du cannabis et que l'acheminement du cannabis soit bien géré par l'État français, amène à ce qu'on peut se poser des questions sur les personnes qui ont été pénalisées auparavant et qu'on leur donne la possibilité justement de vendre et de régir cela. Mmh. Ça évite en fait en quelque sorte de les renfermer et de les laisser peut-être aller devoir... peut-être vendre une autre drogue.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Non content d'avoir commis un crime qui n'a aucun putain de sens, la dissimulation d'un fugitif et la destruction de preuves, l'agriculteur franchit encore un cap en se lançant dans la production de stupéfiants. Notez cette arnaque. En rajoutant l'étiquette bio, le film essaie de faire passer un trafic de stupéfiants pour une simple démarche d'agriculture raisonnée et d'artisanat local. On n'est plus dans le trafic violent des réseaux, mais dans le circuit court, le produit du terroir et le respect de la nature. On parle d'une substance dont le trafic finance des réseaux criminels et détruit des vies, mais le scénario rassure le spectateur bobo urbain.
Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de pesticides dedans. C'est fait avec amour entre les chèvres et les champs.
Voilà.
Alors que les agriculteurs français font face à une crise structurelle majeure, dette, surréglementation, détresse sociale, la solution proposée par cette comédie, c'est de s'associer avec un délinquant de cité pour faire pousser de l'herbe bio. Le message subliminal, la France rurale ne peut pas se sauver par son travail traditionnel ou par des réformes économiques. Elle doit basculer dans l'illégalité joyeuse et la débrouille urbaine pour survivre.
Ça prend le cul !
Passons maintenant à la bande-annonce.
Oh, ça va, Mimi ? Qu'est-ce que tu me casses les couilles là, tous les jours ? Ça va ? Dégage.
Il faut que tu reviennes avec des pesticides.
Mais t'as pas le choix, regarde ce que tu perds chaque année avec ton bio, là. La moitié se fait manger par les vers et l'autre moitié tu la cherches parce qu'ils ont ta tronche.
Putain, ils sont fait péter.
C'est quoi ça?
C'est qui, toi?
Moi, c'est Jean.
La voiture, elle est où?
Je m'en suis occupé.
Trop choqué, il y avait 50 kilos de déchets à l'intérieur.
Bon, fais-le mort, t'as fait pas remarquer.
C'est un fou, il m'a pris pour faire l'ingaz.
Renifle-moi ça.
C'est des olives, c'est quoi?
C'est du fumier.
C'est pas un jeu, si tu trouves pas de quoi rembourser, ils vont te déchirer, frère.
Je te conseille pas t'approcher de lui.
Frérot, j'ai des voyous qui veulent me tuer. Tu crois que c'est un coq qui va me faire peur, toi?
Yagouta.
Oh, c'est de la frappe.
Monsieur Jo.
La Nilvanor.
Mais tu es dealer ou tu es pas dealer?
Je suis pas un dealer, je suis un herboriste.
Coucou les filles. We got
horses. Mais là, il y a solution. Tu es penché tête, je règle mes soucis, on est tranquille.
On va faire de la bœuf d'une qualité exceptionnelle.
La plus psychodélique, psychothermique, psycho-intrinsèquement planétaire.
Oh, de bon matin, du vin, du fromage.
Pourquoi il est vivant, le fromage?
Quand vous voulez rentrer dans le game, hein?
Et tu te retrousses les manches comme tout le monde, pas comme tous ces arabes là.
Oh. Je crois que je vais pas capter, tu ressembles chaud à Samy dans Scooby-Doo.
Est-ce que c'est à moi que tu parles?
Putain, ça vient de là les œufs en vrai?
Oh, sur ma mère, je mange plus d'omelette.
Raymond, nous sommes des amis maintenant.
We are friends now. Raymond, arrête, je vais t'envoyer un gosse.
Là encore, il y a tant à dire. Dès le début, le père dit à son fils.
Faut que tu reviennes avec des pesticides, t'as pas le choix. Regarde ce que tu perds chaque année avec ton bio là. La moitié se fait bouffer par les vers, et l'autre moitié tu la jettes parce qu'ils ont ta tronche.
Cette réplique d'apparence anodine est une mine d'or. Le père, c'est l'ancienne France, celle qui ne pense qu'au rendement et au fric, et qui n'hésite pas à empoisonner la terre pour parvenir à ses fins. Le fils, aux yeux de son père, c'est le benêt utopiste. Le scénariste nous enferme dans un faux trilemme avec trois uniques choix possibles. Être un sale pollueur vénal et égoïste, mettre la clé sous la porte et perdre sa raison de vivre, et le troisième choix, sauver son affaire et cerise sur le gâteau, redonner un sens à sa vie en se lançant dans le trafic de drogue. Mais bio, attention, il a des valeurs quand même.
C'est sûr.
La scène qui suit est particulièrement choquante. En apercevant la voiture ouvreuse se faire contrôler par la police, c'est-à-dire la voiture qui anticipe systématiquement chaque convoi de drogue, il effectue un refus d'obtempérer et manque d'écraser un policier au passage. Dans le monde réel, c'est une mise en danger de la vie d'autrui, un crime d'une gravité extrême qui fait régulièrement des victimes. Mais dans la matrice du cinéma français subventionné, c'est quoi? Une petite cascade rigolote.
Refus d'obtempérer? Qui n'en fait pas? Dites-moi, qui n'en fait pas dans la vie?
Et moi?
Un simple incident de parcours pour amener notre héros vers sa nouvelle vie champêtre. C'est là que réside l'irresponsabilité totale de ce genre de production. Transformer un comportement criminel hyper dangereux et anxiogène dans la vraie vie en un ressort comique inoffensif. Puis j'ai bloqué sur cette phrase.
Frérot, j'ai des voyous qui veulent me tuer, tu crois que c'est une poule qui va me faire peur?
Des voyous? Ah bon, parce que pour lui, il n'en est pas un? Le mec transporte des dizaines de kilos de drogue en go fast, manque d'écraser un flic, commet un délit de fuite, mais les voyous, c'est seulement ceux qui veulent le tuer?
Non, je ne crois pas, non.
Dans son esprit et dans celui du scénariste, il n'est pas un criminel. Il est juste un type pris au piège par les vrais méchants. Il s'attribue le statut de victime alors qu'il est un acteur direct du trafic. Dans cette grille de lecture sociologique et culturelle, tant qu'il n'y a pas eu de mort directe sur le coup, tout le reste, les vols, le trafic, les refus d'obtempérer, la mise en danger d'autrui, est rangé dans la catégorie « petite bêtise ». Les voyous, ce sont ceux qui versent le sang ou sortent les armes lourdes. Lui, comme il n'a fait que conduire la voiture et transporter la marchandise, s'estime fondamentalement inoffensif et moralement supérieur. Notez la fin de la phrase. Tu crois que c'est une poule qui va me faire peur? Même en position de détresse totale, le personnage conserve cette posture de supériorité et de mépris vis-à-vis du monde rural. La campagne est ramenée à un décor inoffensif, ridicule et folklorique face à la dureté de la cité. La ficelle est tellement grosse qu'on devine la scène d'après. En effet, il est terrorisé par une volaille. Cela sert à rendre le personnage inoffensif aux yeux du public. Un type qui hurle de terreur devant une poule ne peut pas être perçu comme un criminel menaçant. En faisant du délinquant un froussard ridicule, le film désarme définitivement la peur qu'il pourrait inspirer. Regardez l'arrivée du personnage de Gad Elmaleh en chimiste québécois illuminé. Déjà, le caméo entre potes n'a aucun sens, mais notez le deux poids deux mesures absolu. Aujourd'hui, si un humoriste fait un accent antillais ou africain, il se fait annuler pour stéréotype offensant.
Est-ce que pour toi, imiter un accent, c'est raciste?
Ça dépend qui le fait.
Ça dépend du contexte. Si c'est dans le cadre de l'amitié, que c'est pour rigoler entre guillemets, pourquoi pas? Mais si par exemple, vous venez me voir et vous prenez un accent africain, dans ce cas-là, oui, quand même.
Par contre, imiter un Québécois de manière hyper lourde et caricaturale, pas de problème. La charte de la bien-pensance valide à 100%.
C'est pas grave.
Et pour compléter le tableau, on nous parachute la jeune fille blonde qui n'est autre que Emma Smet, la fille de David Hallyday et de Estelle Lefébure, qui vient faire goûter un joint à notre héros. La fonction narrative est limpide, il faut rassurer le public. En montrant que la drogue est consommée avec le sourire par une jeune fille en apparence bien sous tout rapport, le film achève de transformer un trafic de stupéfiants en un simple rassemblement baba cool et co-responsable. Vous vous rappelez du père ? Le vieux paysan bourru qui engueulait son fils parce qu'il refusait d'utiliser les pesticides ? On aurait pu croire qu'il resterait le dernier rempart de la légalité ou du bon sens. Eh ben, pas du tout. Dans la bande-annonce, on le retrouve tout sourire en train de lâcher.
On va faire de la beuh exceptionnelle.
La boucle est bouclée. La conversion de l'ancienne France est totale. Le film ne propose pas de réconcilier les mondes par le travail ou le respect des lois. Il les réconcilie dans le trafic de drogue. Le jeune de cité n'a pas appris les valeurs de la terre, c'est le paysan qui a appris le business de la rue. Et l'industrie du cinéma nous vend ça comme une belle histoire feel-good d'intégration. Tout va bien en France.
Ce pays est foutu.
Regardez bien cette scène du petit déjeuner. Le jeune de cité est dégoûté parce que les paysans boivent du vin et mangent du fromage bourré de verre dès le matin. C'est quoi ce foutage de gueule ? Le fromage au verre ? Au-delà d'être totalement interdit par les normes sanitaires européennes, est une pratique ultra marginale qui n'existe pratiquement plus. Et le vin au seau du lit, à part réactiver le cliché moisi du paysan forcément poivreau, ça ne correspond à aucune réalité du monde agricole d'aujourd'hui. C'est là que réside la fraude du scénariste. Pour rendre le jeune de banlieue sympathique et civilisé, le film est obligé d'inventer de toutes pièces des traditions crasseuses et de caricaturer la France rurale comme un peuple de barbares hygiéniques. C'est du mépris de classe pur et dur, fondé sur des mensonges sociologiques. Mais il y a un deuxième paradoxe dans cette bande-annonce et il est presque plus triste que le reste. Regardez cette scène où le héros voit une poule pondre et lâche en toute sincérité
« Putain, ça vient de là les œufs !»
Attendez, c'est censé être drôle ? Pour faire rire dans les salles obscures, le scénariste pourtant issu de la même culture est obligé de faire passer le jeune de banlieue pour un abruti complet.
Moi je suis entre guillemets un peu contre les frontières. Pourquoi ? Parce que j'aimerais que les gens ils puissent aller où ils veulent dans n'importe quel pays dans le monde. C'est comme les oiseaux, c'est comme si les oiseaux à la fin ils volent et d'un coup tu as un grillage. Ah frérot, tu n'as pas le droit de sortir de là, tu peux pas aller dans l'arbre en face, excuse-nous, c'est pas la France. C'est un peu bizarre.
On touche là au travers absolu de ce cinéma. Sous prétexte de faire de la comédie d'intégration, le réalisateur adopte en réalité le regard le plus condescendant qui soit. D'un côté, il humilie la France rurale en la faisant passer pour des sauvages alcooliques qui bouffent des verres. De l'autre, il infantilise le jeune de cité en le peignant comme un crétin fini qui découvre l'origine des œufs à 25 ans. Au final, le scénario ne respecte personne. Évidemment, le cliché ultime. Les deux jeunes que tout opposait, devenus les meilleurs potes du monde, bras dessus, bras dessous, unis par le business et le grand air.
Amine, amine, amine.
Mais ne vous y trompez pas. Sous ces airs de petite comédie champêtre et feel good, ce film est un concentré de tout ce qui va pas dans le cinéma français subventionné. Résumons le tableau. D'un côté, on a une France rurale dépeinte comme crasseuse, avinée et cynique, incarné par un père qui exige des pesticides ou capitule face à la drogue dès que ça devient rentable. De l'autre, on a un jeune de cité totalement déresponsabilisé, dont les infractions graves, du go-fast au refus d'obtempérer, sont effacées d'un trait de plume pour en faire un pauvre gamin attachant et victime du système, mais tellement infantilisé qu'il ne sait même pas d'où viennent les œufs. Et au milieu de tout ça, quel est le grand message moral du film ? Que pour sauver l'agriculture bio et réunir les Français, il n'y a pas 36 solutions. Il faut faire pousser de la weed. Dans la grille de lecture de nos scénaristes, le trafic de drogue bio devient plus éthique que le travail agricole traditionnel. Ce genre de production ne cherche ni à comprendre la ruralité, ni à élever la jeunesse des quartiers. C'est juste du mépris de classe emballé dans des stéréotypes grossiers, le tout financé pour vous faire avaler avec le sourire une inversion totale des valeurs. Bref. La prochaine fois qu'on vous vendra une comédie sur le vivre ensemble, rappelez-vous qu'au cinéma, pour sauver la planète et s'intégrer, il suffit de dealer.
Mon Dieu, mais c'est bien sûr.